Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
RFI, grand reportage, Thomas Arms.
Bonjour à tous. Grand reportage aujourd'hui nous emmène en Suède. Kiruna, dans la Laponie suédoise, est connue pour sa mine de fer, la plus grande d'Europe. Le gisement est énorme et se poursuit maintenant sous la ville, dont la stabilité du sol est menacée. Alors faut-il fermer la mine ou déménager la ville? Les habitants de Kiruna ont choisi la deuxième solution. Un processus qui va se dérouler sur plusieurs années, mais qui a été marqué fin novembre par l'inauguration de la mairie, le premier bâtiment du nouveau Kiruna. Kiruna, la ville qui déménage, c'est un reportage de Frédéric Faux.
Un discours du roi de Suède, une chanson originale. Kiruna a vu les choses en grand pour l'inauguration de sa nouvelle mairie. L'ancienne Kiruna, qui se trouve à 3 km de là, est condamnée par l'extension de sa mine de fer, la plus grande d'Europe. La nouvelle Kiruna, elle, sort à peine de terre. Tout autour de la mairie, ce n'est encore qu'un vaste chantier qu'a dirigé Göran Kars, l'urbaniste chargé du projet.
Je veux dire, c'est quand même compliqué d'aller voir les gens pour leur dire « Désolé, mais vous devez partir parce que la mine s'étend ». On a beaucoup parlé avec les habitants pour connaître leurs attentes. On sait que des milliers de personnes vont devoir être relogées dans cette nouvelle ville. Le point de départ, c'est cette mairie, au milieu du centre-ville. Elle va être entourée par un ensemble de zones culturelles, commerciales, dans un environnement très dense. Il y aura une nouvelle maison de la culture, une bibliothèque, et ensuite on déplacera tous les commerces, car on ne peut pas faire bouger les gens en premier, c'est absolument impossible. Et ces commerces vont tous déménager en même temps. Le 1er septembre 2022, tous les commerces vont ouvrir dans le nouveau Kiruna. Et une fois que ce sera fait, les gens pourront venir.
À l'origine de ce déménagement sans précédent, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est annoncée en 2004 par LKAB, l'entreprise nationale propriétaire de la mine de fer de Kiruna. Le gisement, exploité depuis un siècle, continue à plus d'un kilomètre sous terre, ce qui permet d'y travailler au moins jusqu'en 2035. Kiruna, c'est le fleuron de l'industrie minière suédoise. Pour se rendre à la mine, pas d'ascenseur, ni de boyaux humides. Ce véritable labyrinthe, qui s'enfonce à 1350 mètres sous terre, est desservi par 500 km de route. On y circule en bus ou en voiture, comme le fait Joséphine Eyelman, qui nous accompagne jusqu'au niveau moins 540.
Je me gare toujours dans le sens du retour, au cas où quelque chose arrive dans la mine. On laisse toujours les clés à l'intérieur. C'est à ce niveau que l'on travaillait dans les années 70. Lorsque nous avons enlevé tout le minerai, nous sommes descendus. C'est comme ça que la mine existe toujours. Aujourd'hui, nous sommes à moins 1350 mètres.
Il s'est passé quelque chose cette nuit que j'ai vécu et que vivent tous les habitants de Kiruna. J'ai entendu, alors c'est pas entendre en fait le bon mot, ça serait vraiment sentir cette vibration qui vient du sous-sol. Et cette vibration, c'est effectivement l'explosion qui a lieu ici toutes les nuits.
Oui, toutes les nuits, on avance avec une explosion pour pouvoir extraire le minerai. C'est une explosion très puissante. Quand vous avez l'habitude, vous continuez à dormir. Mais sinon, ça vous réveille. Après, la mine est fermée plusieurs heures pour que les gaz puissent s'évacuer. Ensuite, le minerai est transporté jusqu'à des ascenseurs qui l'emmènent dans les usines où l'on fabrique les pellets à la surface.
The pelletization plants above ground.
Voilà à quoi ressemble le produit final. Des petites billes de minerai de fer. Et c'est vraiment la meilleure qualité que l'on trouve sur le marché aujourd'hui.
La mauvaise nouvelle, elle, est résumée sur un plan en coupe de la mine et de Kiruna à la surface.
Là, c'est la couche de minerai au milieu qui s'enfonce en direction de la ville. Quand on enlève le minerai de fer, ce terrain sur le côté s'effondre naturellement dans les cavités. Et ce terrain est aussi du côté de la ville. C'est pourquoi le sol s'effondre. Cette ligne rouge sur la carte délimite la partie de la ville qui sera touchée d'ici 2035. Comme vous voyez, c'est une grande partie du centre-ville que nous allons devoir déménager. 6000 personnes sont directement concernées, mais en fait, tout le monde est touché. Car ces quartiers sont peut-être ceux où vous aviez l'habitude de jouer quand vous étiez enfant, où vous alliez à l'école. Ce sont beaucoup de souvenirs, de sentiments que nous devons respecter.
Le centre-ville sera donc rasé et reconstruit 3 km plus à l'est, sans compter le déplacement de routes, d'une ligne de chemin de fer et d'autres infrastructures vitales comme les égouts ou les lignes électriques. Malgré l'ampleur du séisme, la population de Kiruna, assure le maire adjoint Stéphane Sidberg, a très vite compris où était son intérêt.
La première réaction des gens a été de dire « Bien sûr, nous allons bouger la ville si El Kaabeh a besoin de creuser en dessous. Et nous savons que nous avons besoin de El Kaabeh pour survivre dans le futur. » Pour les habitants, ça n'a jamais été un problème. El Kaabeh a toujours vécu en symbiose avec Kiruna. Et pour bâtir ce nouveau centre-ville, nous avons l'avantage de bénéficier des fonds de El Kaabeh, donc on a la possibilité de le faire un petit peu mieux.
Cette acceptation du sacrifice peut être mise sur le compte d'une discipline toute suédoise, mais elle est aussi révélatrice de l'emprise de la mine sur Kiruna. Pour s'en rendre compte, il suffit de grimper sur le terril avec Joséphine Eyalmalm. À nos pieds, entre la mine et la ville, on distingue très nettement une énorme crevasse de plusieurs centaines de mètres de long.
Voilà le résultat des déformations. Quand on extrait le minerai, le sol s'effondre et on le voit très bien de ce terril. C'est un gros trou qui va ne faire que s'élargir. Et vous pouvez voir aussi comment ces déformations se déplacent lentement vers la ville. Les infrastructures, ce qui est dans le sol, comme les canalisations par exemple, sont touchées en premier. Vous voyez cette route qui passe en bas? Dans un an, il va falloir la déplacer.
Les destins de la ville et de la mine, l'un des rares gros employeurs dans ce nord de la Suède, sont liés. C'est en tout cas la vie d'Elim Kiviniemi. Nous sommes dans le coquet village de Jukkasjärvi, dans sa belle villa en bord de rivière. Cette conductrice d'engin est chargée de déblayer le minerai après l'explosion. Un travail éprouvant, mais très bien payé.
J'ai commencé en 2006 comme conductrice de pelleteuse. C'est un travail propre. Vous n'êtes pas dans la poussière, vous êtes à l'intérieur d'une cabine. On fait des tours de 9 heures et le salaire est de 4 500 à 5 000 euros par mois. El Kaabeh est un bon employeur, pas seulement pour ses employés, mais aussi pour toutes les entreprises sous-traitantes. Sans El Kaabeh, Kiruna serait juste un village.
Des mots qui traduisent la ferveur un peu forcée d'une salariée envers son employeur, mais aussi une certaine réalité. Kiruna a été fondée à la toute fin du 19e siècle par Johan Hjalmar Lundbom, premier directeur de El Kaabeh. Aujourd'hui, la mine produit 90% du fer en Europe. Elle est devenue un rouage essentiel de l'industrie, mais aussi des finances suédoises. Per Hall, à Stockholm, est le dirigeant de Svemin, le groupement qui représente tous les acteurs de la mine en Suède.
L'histoire de la mine en Suède est une très longue histoire. Les rois en Suède ont toujours eu besoin d'argent et cet argent est venu de la mine. Aujourd'hui encore, nous sommes le pays d'Europe où il y a le plus de mines. El Kaabeh, dans ses régions rurales du Nord, est très importante pour les gens. C'est la seule entreprise minière du pays qui soit publique et aujourd'hui, c'est une entreprise très moderne. Le gouvernement n'a absolument aucune intention de la vendre parce qu'elle rapporte beaucoup d'argent et qu'elle est importante pour le pays.
C'est cette prospérité de El Kaabeh qui a aussi permis de convaincre les habitants de Kiruna. Dans les bureaux de l'entreprise où l'on gère la transformation, c'est le terme employé ici, de la ville, Anders Lundgren montre sur un plan une zone rouge, déjà évacuée, et une périphérie rose, où la mine a déjà acheté de 80 à 90% des logements.
On paie à peu près pour tout. Si vous avez une maison, nous vous offrons une nouvelle maison ou de l'argent. Dans ce sas, on fait une estimation par une agence immobilière et on vous offre 25% en plus. Si vous voulez une nouvelle maison, on vous la construit avec tout ce que vous aviez dans l'ancienne. Une cuisinière, un sauna, tout. Si vous êtes locataire, on vous fait une offre pour un nouvel appartement dont le loyer sera régulé pendant 9 ans.
Imaginons que moi, je vive dans cette zone rose et que je ne veuille pas vendre, que je veuille y rester. Qu'est-ce qui se passe?
Comme les conditions que l'on offre sont très bonnes, vous allez préférer aller dans un nouvel appartement plutôt que de rester dans l'ancien. Et tous les autres locataires, tous vos voisins seront partis, donc vous serez seul. Ce n'est pas un problème que nous avons encore rencontré.
Une bonne volonté qui n'a pas empêché l'ancienne Kiruna de dépérir, alors que la nouvelle n'est pas encore née. La date butoir du 1er septembre 2022 approchant, les commerces commencent à fermer, les rues se vident, et ça ne plaît pas à Barbe Robem. Cet artiste local nous présente une de ses sculptures, un gros bloc de pierre réalisé en hommage aux mineurs. Pour elle, déménager une ville n'est pas qu'une affaire d'immobilier ou d'infrastructure.
Là, vous voyez la main d'un mineur qui tient la roche. Et là, cette pente qui descend et descend encore. Rappelle qu'on ne sait pas encore jusqu'où va cette couche de minerai. La mine est si importante pour Kiruna. Sans la mine, pas de Kiruna. Mais en même temps, j'ai mon cœur qui pleure, car ils sont en train de déplacer ou d'abattre tous ces beaux immeubles. Il y a beaucoup de livres et de photos sur ce qui se passe ici. Mais moi, dès qu'ils ont commencé à déplacer le premier immeuble, j'ai arrêté de prendre des photos. Parce que tôt ou tard, je vais travailler sur ce déplacement de Kiruna. Et je veux le faire avec mes souvenirs, avec ce que j'aurai gardé dans mon cœur.
Un lieu symbolise cette difficulté émotionnelle à quitter, contraint et forcé, cette ancienne Kiruna. C'est un parc créé sur un quartier tout récemment détruit où l'empreinte des immeubles disparus a été symboliquement matérialisée au sol par de petits murets, comme un souvenir qu'on ne peut effacer. Barbe Robem nous y emmène.
Ici, il y avait 3 ou 4 grands immeubles de 3 étages. C'était là.
L'allée où on marche donc était une rue, et ces formes qui sont dessinées au sol, qui sont matérialisées par des petits murs, c'est la silhouette, on peut dire, ce qui reste des immeubles.
Ils ont gardé des gravats des immeubles qui ont été détruits et ils les ont mis dans ces cages métalliques. Le fait d'avoir fait ça me rappelle les gens qui ont vécu ici. C'est un sentiment profond de tristesse. C'est comme si c'était le cimetière de ces immeubles.
Et ce qui est encore plus fascinant, c'est quand on pense que sous ce cimetière, à peu près 1,3 km sous nos pieds, il y a des gens qui travaillent, qui sont les gens qui donnent vie à cette ville de Kiruna, les mineurs là, qui s'activent en dessous de nous.
Vous savez, je ne suis venue dans ce parc que 3 fois. Je n'aime pas ça. J'essaie d'effacer ces souvenirs, mais personnellement, je sais que je ne devrais pas dire ça. Je n'irai jamais vivre dans la nouvelle Kiruna. C'est bâti dans un creux, les immeubles sont trop serrés les uns près des autres, ils sont neufs et pas très beaux. Ils sont peut-être très fonctionnels, mais pour moi, c'est non.
Pour que le nouveau Kiruna ne soit pas trop différent de l'ancien, LKAB finance aussi le déplacement ou le démontage de dizaines de bâtiments historiques, dont l'emblématique église, connue dans toute la Suède. Mais certains, trop massifs pour être déplacés, vont devoir être détruits, comme l'hôtel de ville. L'historien Rasmus Norling y recense les éléments remarquables pour les déménager dans l'ancienne Kiruna. Car cet imposant édifice, construit dans les années 60, de style brutaliste, raconte aussi l'histoire de la ville. On y entre par une petite porte qui débouche sur un immense hall. Le but, explique Rasmus Norling, était certes d'impressionner le citoyen, mais pas seulement.
L'architecte pensait que chez nous, dans le nord, où il fait si froid et où on ne peut pas se réunir sur des places, nous avions besoin d'un grand espace pour se retrouver. Il voulait que ce hall soit un peu le salon de Kiruna, où les habitants puissent avoir une vraie proximité avec les fonctionnaires et les politiciens qui travaillent ici. C'est pour ça que la première chose que vous voyez en entrant est cet escalier qui mène au bureau des politiciens.
Voilà, donc on monte le grand escalier.
On va sauver beaucoup d'éléments de cet immeuble pour que les gens n'oublient pas l'ancienne mairie. La première chose que l'on va déménager est ce pupitre, car nous avons eu ces grandes grèves de mineurs en 1968. C'est un événement historique et il y a beaucoup de photos où l'on voit les grévistes à ce pupitre. On va aussi sauver et réutiliser cette très populaire salle des mariages. On va essayer de déplacer toute la salle pour essayer aussi de déplacer tous les sentiments autour de cette salle.
C'est quelque chose que les gens qui construisent cette nouvelle ville de Kiruna essayent de faire, d'apporter une vie dans cette nouvelle ville. Vous pensez que c'est possible justement en déplaçant ces parties de l'ancienne ville de Kiruna?
Oui, je crois. Et on travaille dur pour ça. Aussi, quand on déplace des bâtiments entiers, on essaie de les déplacer en groupe pour conserver leur connexion entre eux et leur valeur historique. On ne sait pas encore combien de bâtiments nous allons sauver et déplacer. Ça devrait être entre 30 et 40.
Cela fait longtemps que les habitants de Kiruna savent qu'ils vont devoir partir. Mais ces travaux de démolition et de construction, qui n'ont vraiment débuté qu'en 2018, les ont persuadés que les choses sérieuses avaient vraiment commencé. Au-dessus du quartier rasé, l'immeuble de Martin fait partie des prochains qui vont être démolis. Il va déménager dans quelques jours.
C'est très triste de voir ça. Je vais déménager dans un appartement de la même taille. On a un prix d'amis pendant 9 ans, c'est plutôt bien. Dans cet immeuble maintenant, il n'y a plus que nous et un autre couple, surtout ceux qui étaient là depuis le début.
La nouvelle majorité municipale, élue cet automne, est aussi sortie de sa torpeur. Face à l'ampleur des travaux, dont la facture est estimée à 3 milliards d'euros, elle a décidé de prendre ses précautions. Stefan Sidberg est le maire adjoint de Kiruna.
Le coût total de cette transformation urbaine va être autour de 3 milliards d'euros, ce qui n'est pas énorme comparé à la valeur du fer qui est sous nos pieds. L'ancienne municipalité disait « Ok, nous croyons à LKAB et nous les laissons faire les comptes eux-mêmes ». La nouvelle municipalité veut que l'engagement de LKAB soit écrit noir sur blanc. On a confiance en LKAB, mais on aura encore plus confiance avec un accord écrit.
Malgré ces quelques accros, trouver à Kiruna des opposants à cette transformation urbaine et donc à la mine est très difficile. Thomas Löfgren est journaliste au quotidien local NSD.
LKAB a fait un sondage qui montre que 96% des gens qui sont concernés par ce déménagement sont satisfaits. Mais comment LKAB pourrait perdre? Car si vous ne voulez pas bouger, vos raisons de rester vont être comparées devant la justice aux raisons de LKAB, le géant industriel de la Suède. À votre avis, qui va gagner ce procès? La ville de Kiruna a été construite à cause de la mine. Donc, dans l'esprit des habitants de Kiruna, la mine va toujours exister. Des milliers de personnes travaillent pour la mine et des milliers d'autres travaillent grâce à elle, comme les sous-traitants, les professeurs d'école, les employés de la mairie. Demandez-vous juste que se passerait-il si la mine fermait aujourd'hui? Combien de personnes partiraient à l'instant en vendant leur maison pour chercher un autre job? En posant cette question, vous comprenez à quel point Kiruna est dépendante de la mine.
Dans ce concert unanime, il y a pourtant quelques voix qui détonnent. Ce sont celles des éleveurs de rennes Sami, le dernier peuple autochtone d'Europe. Les Sami occupent depuis des millénaires ces hauts plateaux du nord de la Suède et l'extension de la mine les concerne au premier chef. Pourtant, ils n'ont jamais été consultés. Nils Johan Labba est artisan, éleveur et membre du Parlement Sami.
C'est une sorte de racisme structurel. On ne nous voit pas, on ne nous entend pas. Notre problème, c'est que les itinéraires empruntés par les éleveurs qui vont des pâturages d'hiver à ceux d'été sont littéralement coupés. Par exemple, dans ma zone, juste en dehors de Kiruna, on a construit une nouvelle ligne de chemin de fer qui passe en plein milieu. Le problème, ce n'est pas seulement la mine, mais ce qui arrive avec, de nouvelles villes, des chemins de fer, des routes, des stations de chargement, toutes les infrastructures. Je pense qu'il y a de meilleures façons de communiquer avec un peuple indigène. On veut seulement le droit d'être entendu, ce ne devrait pas être si difficile.
Mais une fois de plus, à Kiruna, la mine a été la plus forte.
Kiruna, la ville qui déménage, un grand reportage de Frédéric Faux, réalisation Pierre Chaffanjon.